Vous écoutez France Culture, il est 6h45. Bonjour Xavier Martinet.
Bonjour Jacques Meunier, bonjour à tous.
Au sommaire des enjeux internationaux, l'impact de l'affaire Carlos Ghosn sur les relations France-Japon.
Et oui, puisque l'ex-PDG de Renault-Nissan, Carlos Ghosn, est mis en examen juste hier pour avoir dissimulé des millions d'euros de revenus au fisc japonais. Il pourrait rester en prison jusqu'à l'an prochain. L'affaire réveille des tensions diplomatico-industrielles. C'est aussi un coup de froid en pleine tentative de réchauffement franco-japonaise. Et on va voir votre analyse. Franck Michelin, bonjour.
Bonjour, Xavier Martinet.
Merci beaucoup d'être au téléphone avec nous en direct de Tokyo. Vous êtes professeur au département des sciences économiques de l'université Teikyo et membre de l'Académie des sciences d'outre-mer. Alors, pour commencer, cette mise en examen trois semaines après l'arrestation de Carlos Ghosn, il y a aussi l'entreprise Nissan qui vient d'être inculpée. Ça, c'est nouveau. Sans douter de l'indépendance du parquet de Tokyo, pourquoi est-ce que d'abord l'accusation prend tant de temps? C'est une stratégie ou, disons, la procédure normal.
Non, c'est la procédure. J'ai moi-même participé hier à une émission de télévision où un ancien procureur est venu tout expliquer. Donc c'est une procédure absolument normale.
D'accord. Parce qu'il y a eu aussi quand même une certaine mise en scène, on pourrait dire, de cette arrestation. On peut lire dans la presse japonaise que l'Asahi Shimbun était prévenu et a pu envoyer un caméraman. Ça fait un peu penser, toute proportion gardée, à l'arrestation de Dominique Strauss-Kahn. Est-ce qu'il n'y a pas une tentative d'un procureur, disons, de redorer une image de cette caste, on pourrait dire, des procureurs très spéciales?
Oh non, je ne pense pas que c'est du côté des procureurs, mais plutôt du côté de Nissan que les choses se jouent. Hein.
Oui, alors...
C'est-à-dire qu'on s'est aperçu qu'à l'intérieur de Nissan, un groupe enquêtait sur Carlos Ghosn déjà depuis plusieurs années, et absolument au même moment, ils ont à la fois provoqué l'arrestation de Carlos Ghosn, organisé une conférence de presse où le numéro 2, Saikawa, à parler de Carlos Ghosn en des termes extrêmement durs, et en même temps ils ont lancé énormément d'informations en direction des médias, donc ça c'était très bien orchestré. Oui.
Alors justement, pour rappeler le cas de Carlos Ghosn, donc là encore sans présumer de rien, mais il s'agirait de 70 millions d'euros, je crois, dissimulés au fisc sur 10 ans, ou sur 8 ans plutôt, jusqu'en 2018, via des bilans boursiers de l'entreprise. En quoi est-ce que ça implique Nissan, et en quoi est-ce que Nissan a été inculpé justement aujourd'hui?
Oui, alors c'est tout le nœud de l'affaire. En fait, ce qui se passe, c'est que Carlos Ghosn a été inculpé pour quelque chose qui est beaucoup moins important, beaucoup moins gros que ce qu'on pensait au départ, c'est-à-dire une somme qu'on lui a promis de toucher quand il quitterait Nissan, comme un parachute doré, si vous voulez. La question est de savoir est-ce qu'il devait déclarer ce parachute doré au fisc avant de le toucher. Alors ici, il y a plusieurs avis assez divergents. Donc le cas est assez finalement assez peu important. Donc la deuxième chose, il y a maintenant un certain nombre d'autres faits qui sortent petit à petit. Donc il est, je pense que si Nissan a été inculpé, c'est que les procureurs justement ne veulent pas être manipulés et veulent savoir exactement ce qui s'est passé à l'intérieur de l'entreprise.
Alors on verra à quoi aboutit la procédure. Donc il pourrait rester en tout cas emprisonné jusqu'au 1er janvier, voire au 2 je crois. Carlos Ghosn, donc c'était le PDG de Renault-Nissan destitué, mais c'était aussi un rouage essentiel, on pourrait dire, du différend et de l'accord de stabilisation Renault-Nissan qui court depuis 2015 en ce sens. Est-ce qu'il n'y a pas un lien tout récent avec une volonté de fusion? On dit que ça traîne justement depuis 2015, cette fusion Renault-Nissan.
Ah, évidemment, hein, il faut voir que Carlos Ghosn est une star au Japon et que pour le faire tomber de son socle, il fallait évidemment salir son image. Donc là, c'est assez évident. Maintenant, il y a certaines informations qui circulent, comme quoi Carlos Ghosn voulait justement... se débarrasser de Saikawa, qui est celui qu'il avait choisi pour le succéder.
Hiroto Saikawa.
Vu que Saikawa, c'est ça, oui. Alors donc probablement que le problème vient de Saikawa et d'un certain nombre d'autres personnes. Donc évidemment, oui, il y a une affaire à ce niveau-là. Moi, je pense que les gens qui ont fait chuter Carlos Ghosn sont ceux qui étaient opposés, évidemment, à la fusion. Quelle personne avait intérêt au crime, hein, c'est assez évident que Il s'agit des personnes à l'intérieur de Nissan qui étaient opposées à la fusion.
Oui.
Or, néanmoins, il faut savoir qu'il ne s'agit pas seulement d'un problème franco-japonais. Il y a à l'intérieur de Nissan des gens qui sont favorables à Carlos Ghosn. C'est beaucoup plus compliqué.
Alors, pas un problème franco-japonais. N'empêche qu'il y a aussi un passif, on pourrait dire, entre Emmanuel Macron, presque personnellement, et puis le groupe Renault-Nissan, puisque c'était en 2015 qu'Emmanuel Macron avait manœuvré pour pouvoir augmenter le poids de l'État français au capital et obtenir la question du vote double, en fait, en achetant un certain nombre de voix, puis lui qui avait fait pression, paraît-il, sur Carlos Ghosn, toujours en 2015, pour une fusion, justement.
Oui, justement. Et d'ailleurs, dans les médias japonais, en ce moment, Emmanuel Macron est égratigné très très sévèrement, puisqu'on a tendance à vouloir montrer la main de la présidence française, la main de l'État français, derrière une volonté de fusion qui serait supposée forcée de la part de Renault en direction de Nissan. Finalement, c'est le problème qui est avancé, surtout pour justifier l'arrestation de Carlos Ghosn. Ça n'est peut-être pas la véritable raison, mais c'est au moins le prétexte.
Et alors, avec l'arrestation de Carlos Ghosn, la situation d'Emmanuel Macron, à quel point est-ce que cet accord de stabilisation donc avait été conclu fin 2015 est fragilisé? En gros, c'était un accord dans lequel la France promettait de ne pas utiliser son veto et puis se limitait à une participation de 18% des votes pour les questions non stratégique, disait-elle.
Bah, il faut savoir quand même que le fait qu'un dans les pays d'économie libérale, qu'un État possède 15% d'un grand groupe de cette façon, ça devient assez rare dans le monde. Je veux dire, dans les pays d'Europe occidentale, et ce qui se passe, c'est que c'est assez mal ressenti au Japon, où on pense que l'État français cherche un peu à manœuvrer. Donc il y avait déjà eu un refus d'alliance de la part de Volvo il y a 25 ans maintenant. Donc il faut savoir que ça inquiète énormément les gens du groupe Nissan, mais peut-être que Renault aurait dû faire en sorte aussi de diminuer la participation de l'État afin de rassurer son partenaire.
Donc ça serait manœuvre et contre-manœuvre. Qu'est-ce qui aurait motivé cette décision aujourd'hui? Est-ce que c'est justement Hiroto Saikawa, donc qui est le directeur exécutif de Nissan, celui qu'on appelle le numéro 2, et qui déplorait souvent, disons, l'inégalité, disait-il, de la structure? Ou est-ce que c'est une volonté plus large du gouvernement japonais dans un moment où l'économie est en difficulté et où, très exposé commercialement, il pourrait chercher à se prémunir pour l'avenir, on pourrait dire.
Il s'agit peut-être d'une convergence d'intérêts, effectivement. Peut-être que c'est Saikawa, peut-être qu'il s'agit de gens qui... On a beaucoup comparé Saikawa à Brutus, peut-être qu'il s'agit de gens situés derrière lui qui ont fait pression sur Saikawa pour qu'il prenne la tête du complot contre Ghosn. L'État japonais, il faut dire, n'est pas vraiment non plus un État libéral. Il est un petit peu non libéral d'une façon différente de l'État français. C'est-à-dire qu'il y a un lien très très fort entre le patronat japonais et les ministères des finances et de l'économie au Japon. Et il est évident, on sait très bien que le Japon, en apparence, est une économie libérale ouverte et dans les faits, est une économie extrêmement fermée, puisque quand on regarde la capitalisation boursière au Japon, seulement 5% vient de l'étranger. Donc c'est quelque chose aussi, il est possible qu'il y ait une convergence d'intérêts entre une partie des gens de Nissan, au moins une partie, et certaines personnes à l'intérieur de l'État japonais. Ça n'est pas impossible, mais là, on ne peut pas le priver.
Ouais, et pour cette convergence, en tout cas, vous la rappelez très bien dans un article que vous avez écrit pour la revue Point de vue Histoire en octobre, l'ouverture du Japon à l'Occident, s'adapter pour survivre, on renverra les auditeurs. Alors, dernière question, je disais épine dans le pied, peut-être en pleine tentative de réchauffement diplomatique, puisque moins parce que c'est l'année des 160 ans de relations France-Japon, mais parce qu'il y a un agenda commun France-Japon, comme l'a souligné Emmanuel Macron, et Shinzo Abe, la France présidence du G7 cette année, enfin 2019, le Japon présidence du G20, et les deux porte-étendard du libre-échange, disait Shinzo Abe. Est-ce que c'est remis en cause, ça?
Non, je ne pense pas. Il y a des choses qui sont définies un petit peu contradictoires, parce que même au moment où justement Carlos Ghosn n'est pas en prison, il est en détention provisoire, c'est pas du tout la même chose quand même, au moment où Carlos Ghosn est en détention provisoire, au même moment, le numéro 2 du gouvernement, Asso Tallo, pousse pour que Veolia puisse prendre le contrôle de la gestion de l'eau au Japon. Donc c'est pour ça qu'il est encore quand même assez difficile de dire qu'il s'agit d'un complot de la part du Japon. Maintenant, on sait très bien qu'un État, ça n'est pas monolithique et il peut y avoir évidemment des actions contradictoires venant de différents secteurs.
Et pas forcément de menaces sur la coopération économique. économique large France-Japon, sans compter les questions de stabilité régionale, l'Indo-Pacifique, on y reviendra. Mais merci beaucoup pour vos explications aujourd'hui, Franck Michelin. Je rappelle, professeur au département des sciences économiques de l'université, merci, Teikyo, et membre de l'Académie des sciences d'outre-mer. Et puis on mettra votre article de la revue Point de vue Histoire en ligne, bien évidemment. Et bonne journée, au revoir.